Les cinéphiles, Aileen.
Bonsoir à tous et bienvenue dans les cinéphiles. Aujourd'hui, émission quelque peu spéciale. Oui, comme chaque semaine, je suis allée voir un film. J'ai pris mon petit micro avec moi pour recueillir vos impressions. Et là, surprise, qu'une seule personne assistait à la même séance que moi. Une séance du film Emma d'ailleurs. Cette dame a beaucoup apprécié le film, tout comme moi, mais avec un seul avis, difficile de faire un montage digne de ce nom. Vous ne trouvez pas? Du coup, en compensation aujourd'hui, on vous parlera des réalisateurs les plus rentables de tous les temps, avant que je ne vous donne tout de même mon avis à propos de ce film dans la critique. Sinon, hormis ce détail, le reste de l'émission se déroulera comme d'habitude. On aura dans la bande originale l'occasion de revivre le magnifique film Will Hunting qui questionne l'intelligence. On évoquera les sorties et autres événements cinématographiques de la région avec Raphaël Chevalet, notre journaliste cinéma. Et on se quittera bien sûr sur une note positive, du moins pour l'un ou l'une d'entre vous, puisque vous aurez l'occasion de jouer pour gagner vos billets de cinéma. Voilà donc le programme alléchant de ce début de soirée. Ravi de vous accueillir, chers cinéphiles.
Les cinéphiles, Aileen.
Récemment, le site IndieWire a révélé la liste des 25 réalisateurs qui ont rapporté le plus d'argent au box-office et je vous propose ce soir de parler de ce classement justement. Tout d'abord, sachez que ces chiffres ont été révélés après qu'on ait appris justement que Steven Spielberg était le premier réalisateur à avoir franchi la barre des 10 milliards de dollars récoltés tout au long de ses 40 ans de carrière. Une carrière fructueuse qui a vu naître des films cultes comme Les Dents de la Mer ou encore E.T. et le dernier en date, Ready Player One, qui est pour l'instant le quatrième film le plus rentable de 2018, derrière Black Panther, Operation Red Sea, un film de guerre chinois, ou encore Detective Chinatown 2, une comédie chinoise également. Le deuxième réalisateur le plus rentable de tous les temps est Peter Jackson, qui, avec la trilogie du Seigneur des Anneaux et ses autres films, a rapporté 6,5 milliards de dollars au box-office. Notons que son film le plus rentable est le dernier volet de la trilogie Fantasy. Suivent ensuite Michael Bay avec ses nombreux Transformers, 5 au total. En quatrième position, James Cameron, évidemment avec Titanic, Avatar, mais aussi Terminator 2. Et en cinquième position, David Yates qui a réalisé les 4 derniers Harry Potter. Puis arrive en sixième position, Christopher Nolan avec sa trilogie Batman ou encore son film Inception. Notons que dans les 25 réalisateurs les plus rentables de toute l'histoire du cinéma, il n'y a pas de femme. Pour y trouver une femme, ou plutôt des femmes, rendez-vous à la 34e place du classement au CIS, Lana et Lily Wachowski, souvent créditées comme The Wachowskis, connues surtout pour leur trilogie Matrix.
Les cinéphiles, la critique.
Emma, du cinéaste Silvio Soldini, raconte l'histoire d'une femme, Emma, mais surtout de sa rencontre avec Théo. Théo travaille dans une agence de pub. Il est plutôt doué dans son job. C'est un bel homme dans la quarantaine qui n'a aucun mal à séduire les femmes. Il trompe d'ailleurs régulièrement sa petite amie qui ne rêve que d'une seule chose, s'installer avec lui. Mais lui ne veut pas d'attache. Encore moins lorsqu'il rencontre justement Emma, ostéopathe qui a perdu la vue à 16 ans. Il avoue à un de ses collègues qu'il aimerait bien, par curiosité, une fois couché avec une aveugle. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'aspect sexuel et peu à peu, ces deux âmes, quelque peu brisées par la vie, vont apprendre à cohabiter malgré leurs différences et leurs différends. Emma aurait pu être une comédie romantique banale, mais ça ne l'est pas. Bien au contraire. Oui, il y a une relation amoureuse qui s'établit entre ces deux personnages, mais pas que. On découvre aussi comment une femme aveugle arrive à s'épanouir. On s'attache à ce Théo, a priori arrogant, qui s'avère avoir d'autres problèmes que la date limite d'une pub de voiture. Et surtout, on se laisse aller entre de beaux moments qui font sourire et d'autres qui nous font monter les larmes aux yeux. Le film n'est cependant pas niais et reste ancré dans la réalité. J'ai beaucoup aimé l'ambiance italienne qui régnait dans ce film, mais ça rajoute un peu d'extravagance au personnage. J'ai aussi aimé que, certes, Emma est aveugle, mais c'est surtout sa vie en tant que femme qui nous intéresse et nous fascine, non pas son handicap. Bref, j'ai passé un plutôt bon moment. Le film est léger, mais dans le bon sens du terme. On sort de la séance en étant heureux d'avoir passé 2 heures avec des personnages attachants et proches de la réalité. Je donne à Emma la note de 7 sur 10.
Les cinéphiles, jusqu'à 19h.
Un film qui est sorti la même année que Titanic et qui s'est quelque peu fait éclipser justement par la performance de Kate Winslet et de Leonardo DiCaprio, mais qui reste un excellent film tout de même. On vous parle aujourd'hui de Will Hunting.
Les cinéphiles, bande originale.
En 1997 sort Will Hunting, réalisé par Gus Van Sant avec un casting en or. Robin Williams, Matt Damon et Ben Affleck. Les deux derniers signent également le scénario du film. Le film débute avec une douce composition de Danny Elfman. On voit défiler plusieurs formules mathématiques et des images de Matt Damon en train de travailler sur des calculs. Matt Damon interprète Will Hunting, un orphelin surdoué et autodidacte. Il fréquente avec ses potes les bars populaires à proximité d'Harvard. Un soir, alors que Chucky, le personnage de Ben Affleck, se fait ridiculiser devant des filles par un universitaire, Will arrive pour sauver son ami en démontant le savoir théorique de cet étudiant. Dans ce même bar, il rencontre Skylar, une étudiante en médecine. Celle-ci est impressionnée par Will et lui donne son numéro. Mais la vie de Will est loin d'être rose. Il s'est attiré des ennuis en se battant. Même si la scène est relativement violente, la musique est plutôt douce. Sur Baker Street de Jerry Rafferty, Will et ses copains frappent une bande de voyous. La scène est esthétique ou ralentie sur cette mythique chanson des années 70. Grâce à un professeur d'Harvard, Gérard Lambeau, Will échappe à la prison, mais sous deux conditions. Il doit travailler avec ce mathématicien quelques fois par semaine et suivre une thérapie. Il voit psy sur psy, mais aucun ne semble être à la hauteur de ce génie, jusqu'à ce qu'il rencontre Sean, interprété par Robin Williams. Les deux hommes ont plus de points communs qu'il n'y paraît, et ils vont plus ou moins se lier d'amitié. Will s'ouvre à Sean, mais pas à Skylar, sa petite amie. Elle finit par déménager sans se retourner à l'autre bout du pays. Elle lui lance tout de même un coup de fil sur la chanson « Angelus » d'Elliott Smith. Elle lui dit qu'elle l'aime, mais lui reste totalement silencieux. Will comprend qu'il doit changer. Il accepte un job proposé par Lambeau et rejoint Skylar. On voit alors la voiture de Will rouler sur « Miss Misery » d'Elliott Smith, chanson nommée aux Oscars en 1998. Johnny Walker Red sent the poison rain down the drain to put bad thoughts in my head. Misery d'Elliott Smith qui n'a justement pas raflé l'Oscar car il était nommé en 1998 face à My Heart Will Go On de Céline Dion.
Les cinéphiles, les sorties.
Pour parler des sorties de la semaine, on accueille ce soir Raphaël Chevalet, journaliste cinéma et co-responsable de La Lanterne Magique. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Aileen.
Et on commence avec un film de super-héros, Avengers Infinity War.
Oui, en français, guerre à l'infini, qui porte bien son nom, parce que On en a un peu à l'infini de ces super-héros depuis quelques années. Non, mais bon, évidemment, c'est une de ces franchises qui rassemble tous les héros Marvel. Il y a Iron Man, Thor, Spider-Man, Captain America. Il y a même Ant-Man et les Gardiens de la Galaxie dans celui-là.
Tout le monde,
et
quoi.
Puis, tout le monde. Et puis, le pitch, ils doivent ensemble neutraliser le redoutable Thanos qui veut détruire l'univers ou le monde entier.
Que c'est original.
Voilà. Le résultat, c'est évidemment super spectaculaire. On oublie presque les artifices d'un tournage vraiment sur fond vert. Hein. Et puis, il y a une certaine fulgurance des combats. À mon goût, c'est un peu kitsch, mais les fans adorent.
Dans un registre un peu plus calme, Foxtrot.
Foxtrot, oui, c'est le nouveau film de ce réalisateur israélien qui s'appelle Samuel Mao. Il s'était fait connaître avec Lebanon, qui avait eu le Lion d'Or à Venise en 2009, où il s'est inspiré de son propre traumatisme de jeune soldat durant la première intervention de Tsahal au Liban en 82. Donc c'était un film vraiment antimilitariste. Et Foxtrot, son nouveau film, c'est de nouveau un peu dans cette veine-là. D'ailleurs, il a de nouveau reçu un prix à Venise, pas Lion d'Or, mais Lion d'Argent cette fois. Donc c'est presque 10 ans après hein, pour ce deuxième film. Foxtrot, c'est une tragicomédie qui essaye de voir quelles sont les conséquences morales d'être un occupant pour Israël et pour les gens qui y vivent. Alors il y a une histoire évidemment avec un couple marié à Tel Aviv et puis leur fils qui fait son service militaire dans un checkpoint dans la boue où passent des dromadaires, où il n'y a pas grand chose qui se passe à part quelques dromadaires qui passent la frontière tout seul. C'est un film qui est composé comme un triptyque avec une première partie assez choquante, poignante, une deuxième un peu hypnotisante et puis une autre très rythmée. Il y a vraiment des ruptures de style et de ton entre ces différentes parties. On passe d'une approche très réaliste à quelque chose de très onirique, voire surréaliste. C'est un peu dans une logique de rêve ou d'hallucination. Et puis, ainsi, le cinéaste reflète de façon géniale l'état émotionnel de ses personnages et le trouble de plusieurs générations qui sont confrontées à cette violence d'état, d'être un occupant. Et d'ailleurs, le film a évidemment fait polémique en Israël, mais du coup, ça, il a rencontré un immense succès.
J'imagine que le film suivant ne fait pas polémique, hein, comme des garçons.
Alors aujourd'hui, non, mais en 69, un peu plus. Donc ça se passe en 69 à Reims, en France. Il y a un journaliste sportif qui s'appelle Paul Coutard, qui écrit pour le quotidien Le Champenois. Et il décide d'organiser pour la kermesse un match de football féminin. Alors en 69, il se retrouve face au monde, à un monde disons sexiste et très patriarcal, et il va s'investir avec une jeune et jolie secrétaire à faire changer les mentalités. C'est le premier long métrage d'un cinéaste français qui s'appelle Julien Allard, qui est inspiré donc de faits réels. Les premières licences de football féminin ont été attribuées en France qu'à partir des années 70. Et donc c'est non seulement une comédie qui va à l'assaut des préjugés, disons, qui rend hommage à la lutte des femmes pour l'égalité, mais c'est aussi une reconstitution historique vintage des années 60 qui fait assez envie. Et puis il y a une petite romance aussi, c'est très distrayant.
Place aux événements qui auront lieu cette semaine avec tout d'abord Yvette Sgraggen.
Sgraggen, exactement. Sgraggen. C'est son nom. Oui, le nouveau documentaire du Lausannois Frédéric Gonzette, donc qui revient après la bataille du Gripen. Il a fait ce documentaire sur les votations consacrées aux avions. Et il revient avec ce nouveau documentaire qui est titré Yvette Sgraggen, une femme au volant de sa vie. Parce qu'il y a des voitures dans le film, il y a des voitures de toutes les époques au cours de sa vie. Elle aimait beaucoup les voitures et son père aussi. Et c'est un portrait documentaire donc, qui raconte la vie de cette écrivaine qui a commencé à écrire à l'âge de 6 ans. Une femme vraiment libre et contestataire à l'époque. C'était hors du commun, écrire pour une femme. Elle est née donc dans les années 30. Hein. C'était vraiment quelque chose de mal vu. Et puis, elle a fait vibrer avec sa plume plusieurs générations de lectrices et vraiment ouvert la voie au mouvement féministe. Donc, il vient nous le présenter, ce nouveau documentaire, le dimanche 29 avril, le matin, à Chaudefonds et Neuchâtel.
Et un autre événement aura lieu cette semaine, c'est le Metropolitan Opera à New York. Il y a une représentation, c'est bien ça ?
Oui, le Metropole Opera à New York continue son nouveau programme, hein, avec toujours des opéras retransmis en direct dans nos salles de cinéma. Et puis, ce samedi 28 avril, c'est Cendrillon. Donc, c'est l'occasion de trouver chaussures à son pied, Aileen.
Oui, de rentrer avant minuit. Merci beaucoup, Raphaël. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Les cinéphiles.
Comme chaque semaine, on vous fait gagner vos entrées de cinéma pour la séance de votre choix dans une salle de ciné Pel, Cinémont ou Ciné Vital. Pour les gagner, ces tickets, rien de plus simple. Il vous faut deviner quel film se cache derrière l'extrait qu'on va vous diffuser tout de suite. Et quand vous avez la réponse, il faut surtout nous appeler au 0901 70 20 20. Ça sert à rien de marmonner la réponse seule chez soi. Je peux pas vous faire gagner vos billets sinon. 0901 70 20 20. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti.
Résolution numéro 1. Évidemment, perdre 10 kilos. 2. Toujours mettre à la lessive les sous-vêtements de la veille. Également crucial, trouver un petit ami, gentil et sensible. Et ne plus entretenir d'attaches sentimentales avec des hommes des catégories suivantes. Alcoolique, bourreau de travail, phobique de l'engagement, voyeur, mégalo, tordu et pervers. Et surtout, ne pas fantasmer à propos d'une certaine personne qui incarne toutes ces choses.
0901 70 20 20, si vous savez de quel film est tiré cet extrait. Apparemment, on a des cinéphiles qui sont prêts et qui nous appellent. Bonsoir, qui est avec nous?
Bonsoir, c'est Emeline Bechat.
Bonsoir, est-ce que je peux juste vous demander d'éteindre la radio à l'arrière? Parce
oui,
qu'il me semble que vous avez la radio allumée et puis ça résonne juste un tout petit peu. Merci beaucoup. Vous m'avez dit Émilie, c'est bien ça?
Émeline.
Alors, vous avez apparemment trouvé de quel film il s'agit, de quel film est tiré justement cet extrait?
Alors, j'en suis pas sûre, mais je dirais Le Journal de Bridget Jones.
Ah ben, c'est la bonne réponse, Émeline. Félicitations.
Merci.
Qu'est-ce que vous avez fait dire que vous n'êtes pas sûre? Il me semble que chaque semaine, les candidats que j'ai au téléphone, ils me disent « mais je ne suis pas sûre ». Il faut être un peu sûre de vous, voyons.
Bah, en fait, j'ai pas vraiment vu le film, du coup...
Vous n'avez pas vu le film et pourtant vous avez deviné. Je crois que vous êtes la plus forte des candidats que j'ai eu depuis le début de l'émission.
Merci.
Mais alors, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille si vous ne l'avez pas vu? Qu'est-ce qui vous a fait dire « ah, mais ça pourrait être ce film-là que je n'ai pas vu parce que je sais que... »
J'ai lu le livre.
Ah, bah voilà, bah ça aide aussi la littérature pour faire gagner des billets de cinéma. En tout cas, je vous félicite, Émeline. Je vous invite juste à rester avec nous en antenne pour que je puisse prendre vos coordonnées d'ici un court instant.
Pas de problème.
Merci à vous. Et voilà, c'est ainsi que s'achèvent les cinéphiles avec une bonne nouvelle. On a fait gagner nos tickets de cinéma. J'ai été ravie de vous accompagner pour ce début de soirée sur votre radio favorite. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition des cinéphiles. Mais pour l'heure, un peu de musique et tout simplement Jean-Michel qui nous rejoint tout à l'heure dans AOC. Belle soirée à vous tous.
Les cinéphiles.